d'où je viens. Très loin. Où je vais, personne ne le sait.
Irakiens, Congolais, Kosovars, ils sont chaque année plusieurs milliers à prendre le chemin de l'exil, dans l'espoir d'une vie meilleure. Et c'est bien leur droit. D'ailleurs, l'État a le devoir de les accueillir. Anouar Echadadi, juriste au CIRE, ASBL de coordination et d'initiative pour réfugiés et étrangers.
Une personne étrangère qui vient demander, qui fuit son pays d'origine pour des raisons X, parce qu'il y a vraiment la guerre ou il y a vraiment des circonstances difficiles. Selon la Convention de Genève de 1951, cette personne vient demander la protection d'un État, en l'occurrence la Belgique, et vient sur le territoire. Et la première chose que l'État doit garantir à cette personne, c'est un accueil. Un accueil dans un centre ouvert où la personne doit être installée et être encadrée socialement, juridiquement et même au niveau santé mentale.
La directive accueil impose donc à la Belgique d'accueillir toute personne qui demande l'asile et de lui assurer des droits. Mais la situation actuelle est tout autre.
Il y a 1200 personnes qui sont hébergées dans les hôtels. Il y a 900 personnes qui sont malheureusement dans la rue. On a constaté qu'il y a quand même des familles avec enfants qui dorment dans les gares.
La Belgique ne suit donc pas ses engagements. Pourtant, comme le rappelle Marie-Charles, juriste à la Ligue des droits de l'homme, il s'agit bien d'un droit fondamental qu'elle transgresse.
Demander l'asile est quand même un droit fondamental qui est prévu dans les conventions internationales, tout à fait ratifiées par la Belgique, et voilà pour laquelle la Belgique a pris des engagements et elle ne les honore pas pour le moment.
D'ailleurs, FEDASIL, l'agence fédérale pour les demandeurs d'asile, a récemment été condamnée à payer des astreintes. Anne Dussard, responsable à la Caritas, association d'aide aux migrants.
L'État a été condamné pour les personnes qui sont à la rue à payer une astreinte de 500 euros par personne par jour. Donc ce n'est pas admis, donc ils ne peuvent pas le faire. Ils ont une obligation légale d'accueil de demandeurs d'asile qui est prévue dans la loi.
Des lois et des droits, c'est souvent ce que recherchent ces migrants qui fuient déjà les difficultés de leur pays.
Mais les personnes qui ont fui sont des personnes qui viennent surtout de l'Afghanistan, de l'Arménie et le Kosovo, pour ne pas payer plus vers l'Est. Donc on sait tous très bien que les situations dans ces pays ne sont pas stables. Et en ce qui concerne les pays africains, il y a beaucoup de perturbations. Ce sont des personnes qui viennent avec une histoire, je dirais, qui est quand même liée à ce qui se passe de façon dramatique dans les pays d'origine. Puis il y a la pauvreté dans les pays d'origine. Et donc, pas mal de Brésiliens, d'Ukrainiens viennent ici à la recherche d'un travail.
Mais une fois arrivés en Belgique, ces indésirables n'ont quasi aucun droit et sont privés de liberté. Dans le meilleur des cas, les demandeurs d'asile sont souvent placés dans des centres ouverts en attendant que leur situation soit examinée. Souvent, l'attente peut être longue. Pierre-Jean Burion, porte-parole de Philippe Courard, secrétaire d'État à l'intégration.
Il est inacceptable pour quelqu'un qui vient de l'étranger de faire une demande d'asile et qu'il ait une réponse après 10 ans. Après 10 ans, il aura appris le français, il se sera intégré, ses enfants iront à l'école. Après 10 ans, on peut plus dur, enfin c'est inhumain. Il faut absolument raccourcir ce délai d'attente. C'est pas correct de faire patienter autant de temps les gens qui font une demande d'asile. Si c'est pour après, leur donner une réponse négative.
Quant aux autres, qu'on appelle clandestins ou illégaux, ils vivent dans la peur du contrôle de police, des centres fermés et du refoulement. Ces centres fermés sont gérés par l'Office des étrangers. Ils détiennent des sans-papiers et des demandeurs d'asile en attente d'une décision. Mais que pensent les associations d'aide aux migrants des conditions de vie dans ces centres ?
Catastrophique.
C'est vraiment abominable.
C'est catastrophique.
Ali Guissé, coprésident de l'ASBL SOS Migrants.
Centre fermé ? Oui, j'en ai visité. J'ai eu des amis qui ont été dans les centres fermés. J'ai eu la chance de ne pas séjourner dans un centre fermé. Parce que le centre fermé n'est rien d'autre qu'une prison. Et pire qu'une prison, parce qu'une prison, on sait qu'on a commis un délit civil ou un délit quelconque, et on y va. Mais là, on n'a pas commis de délit. Le seul délit qu'on peut commettre, c'est le fait qu'on est en situation administrative et non reconnue.
Et ils sont pas splendides, hein. Ça reste des camps de détention quand même. Hein. Donc nous, on visite surtout le 127 et le 127 bis. Donc il y en a un qui n'est pas sous le territoire, donc c'est avant l'accès au territoire, qui est vraiment à l'aéroport même. Et là, on a vraiment l'impression que parfois, que c'est pire que dans une prison, parce que dans une prison, on a accès aux soins, on a facilement accès à son avocat, qu'une fois qu'on est détenu en vue d'expulsion, le contact avec le monde extérieur est beaucoup plus difficile. On sort à des moments très limités. Donc, c'est plus ou moins une prison quand même.
Oscar Flores, coordinateur à la CRER, association contre les rafles, les expulsions et pour la régularisation.
Un traitement inhumain et dégradant, oui. Ça, c'est la manière de résumer les conditions de vie dans les centres fermés. Et là, on ne parle pas que des adultes, hommes en bonne santé. On parle des femmes enceintes, on parle des grands-mères, des grands-pères, des enfants, des gens qui sont malades physiquement, mais aussi de manière psychiatrique. Le prix à payer ne mérite pas autant d'injustice, autant de souffrances, parce que on ne parle pas des choses, on ne parle pas d'objets. Hein. On parle de la vie des gens qui sont souvent en danger dans leur pays et qu'on va traiter comme des criminels. Quoi.
Par peur, les personnes qui vivent dans cette situation ont refusé de nous parler. Marie-Charles, de la Ligue des droits de l'homme, a rencontré beaucoup de cas choquants.
On en a beaucoup, des cas qui nous ont choqués, malheureusement. Je vais peut-être parler d'un cas d'un Kurde, donc d'origine turque, qui était enfermé en Belgique, en centre fermé, et qui normalement allait se faire expulser. Et lors de la première tentative d'expulsion, il se serait fait maltraiter par un policier, oui. Et on a eu vent de l'affaire par son avocat. Il y a des certificats médicaux qui ont attesté le fait qu'il avait été maltraité. Et donc voilà, ça c'est vraiment un problème emblématique. Enfin, un problème récurrent qu'on a lors des expulsions de personnes qui sont en centre fermé, il n'y a pas de contrôle du tout, on ne sait pas toujours bien ce qui se passe.
Encore faut-il pouvoir passer les frontières de l'Europe. Pour faire face à une hausse de l'immigration, cette dernière a adopté une politique très restrictive. Cette peur, face à l'inconnu, inquiète du côté des associations.
Ces directives qui viennent pour endurcir l'immigration ou pour endurcir même l'intégration, telle qu'ils ont l'habitude de le dire, est basé uniquement sur des préjugés. Ce n'est pas basé sur la découverte de l'autre, savoir ce qu'il en est.
Pourtant, les opinions qu'on a de ces personnes ne sont pas fondées.
Monsieur Devaux entrait dans l'hôtel. Une jeune réceptionniste, laquelle j'entends.
Bonsoir, mademoiselle. Je voudrais une chambre pour deux ou trois nuits.
Pierre-Jean Burion.
Ce sont des gens qui généralement s'intègrent très bien. Il n'y a pas de problème d'économie, ils ne prennent pas le travail des autres. Quand tu en parles au grand public, les gens sont très réticents par rapport à cela. Ça dérange. On imagine le demandeur d'asile, allez, je vais faire une grosse caricature, mais un Tchétchène bien méchant qui va égorger les petits-enfants pendant la nuit. La réaction parfois du grand public, c'est de dire « Oui, mais on s'occupe des étrangers, des demandeurs d'asile, mais qu'est-ce qu'on fait pour nos pauvres ?» Alors que c'est deux choses différentes.
Souvent, ces migrants n'ont pas la chance de pouvoir s'intégrer, car les pays d'Europe encouragent les retours volontaires. Mais ce n'est pas une option pour la plupart d'entre eux. Les autorités se retournent alors vers les retours forcés.
On ne sait quand même pas vraiment ce qui se passe dans les pays d'origine. On n'a aucun contrôle sur des gens qui sont renvoyés, par exemple, en Irak ou qui sont renvoyés en Afghanistan.
Mais alors, dans quelle situation se retrouvent ces expulsés? Ali Guissé nous expose un cas.
Quelqu'un que je connaissais qui était un ami, parce qu'on a fondé, on a lancé même l'occupation de Saint-Boniface à Ixelles en 2005, donc il faisait partie des quatre personnes, parce qu'on disait quatre, hein, qui occupaient au départ l'église. Il faisait partie de ces quatre personnes. C'est un Roumain. Il était avec nous et en janvier 2006, il a été arrêté et il était dans le centre fermé 127 bis. Et par la suite, il a été expulsé en Roumanie. Donc Roumanie, c'est tout près. Mais quand il est arrivé, il avait du mal. Donc on était obligé de lui envoyer 100 euros, etc. Donc étant donné qu'il s'est fait expulser, donc ça, c'était vraiment difficile à vivre. Arrivé là-bas, il n'avait pas de soutien. Quand on dit qu'il y a un suivi, c'est faux, il n'y a pas un suivi quelque part.
Retour à la case départ pour ces personnes qui ont risqué leur vie et dépensé des fortunes pour atteindre ce qu'elles croyaient être l'Eldorado.
Un Irakien, par exemple, passe plus ou moins une à deux semaines pour arriver ici. Parce qu'on savait très bien, pour quitter le pays, via la Turquie, il reste pratiquement 3-4 jours en Turquie. Et il faut trouver des passeurs, il reste vraiment dans des camions pendant une semaine. Et ça leur coûte vraiment énormément d'argent. L'information que j'ai eue de trois jeunes Irakiens, que ça coûte 10 000 dollars par personne.
Le fait de fermer les frontières ne diminue pas le nombre de personnes qui arrivent. Mais comme conséquence, les trajets migratoires sont modifiés et deviennent souvent plus dangereux. Ces 10 dernières années, entre 15 et 18 000 migrants sont morts aux frontières de l'Europe. Face à ce constat, que proposent les associations ?
Eh bien, on peut que espérer que les places d'urgence vont être faites et ouvertes, et donc réellement les gens ne vont plus dormir dans la rue, que aussi, je dirais, la gestion de l'accueil et de l'asile finalement soit une fois vue dans son ensemble.
Les solutions qu'il faut, c'est non seulement pouvoir permettre, non seulement supprimer les centres fermés. On ne peut pas attraper quelqu'un parce qu'il n'a commis aucun délit, on l'enferme et on l'expulse. D'autre part, qu'ils arrêtent leur système d'hypocrisie. On enferme des gens, on fait croire qu'on va les expulser pendant 6 mois, après on les relâche.
L'Europe ferme de plus en plus ses frontières et durcit sa politique d'immigration. Cette attitude est loin d'être efficace et ne fait que repousser le problème. De tout temps, les êtres humains se sont déplacés sur la planète pour survivre ou pour mieux vivre. L'immigration n'est donc ni une nouveauté ni une menace, c'est l'une des plus anciennes caractéristiques de l'humanité. Comme disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.